Bonjour Philippe Bilger.
Bonjour.
On va parler avec vous de la réforme de la justice, mais je voulais d'abord évoquer ce matin avec vous l'affaire Alexia Jonathan, qui a pris ces derniers jours une tournure très particulière. Il y a d'une part le profil du mari qui a, on le sait désormais, menti pendant 3 mois en s'attirant énormément de compassion. Et puis hier, l'irruption d'une ministre qui critique la ligne de défense de ses avocats. Vous avez été juge d'instruction et vous avez été aussi avocat général, c'est-à-dire le magistrat qui représente l'accusation dans les procès en cour d'assises. Quels sont selon vous les ressorts psychologiques qui peuvent conduire quelqu'un à ce type de comportement si singulier ?
Alors il faut bien comprendre que je me garderais bien de rentrer dans le détail d'une affaire que
oui,
je ne connais
entendu.
Pas. Hein, simplement, il est évident que cette affaire met en cause un certain nombre de données psychologiques et intellectuelles et qui révèlent l'ambiguïté de la nature humaine. C'est-à-dire que voilà un homme qui reconnaît avoir étranglé sa femme, dit-il, par accident, et qui, durant 3 mois, a manifesté un chagrin considérable, épaulé par une belle famille qui croyait évidemment qu'il était totalement innocent. Et si je peux aller jusqu'au bout de cette pensée, en espérant choquer personne, il est à la fois sincère lorsqu'il pleure, mais il est également sincère lorsqu'il pleure sur lui-même, puisqu'il a commis le pire. Donc c'est un comportement d'homme qui à la fois a voulu sauver sa peau de criminel et qui en même temps prend peu à peu conscience de l'irréparable qu'il a accompli en espérant bien sûr n'être jamais pris pour ce qu'il a fait. Et je voudrais rendre hommage à cette enquête et à ce procureur qui nous change radicalement de ce qui avait été fait pour la petite victime Maëlys.
Alors hier, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a critiqué la ligne de défense des avocats du mari qui ont mis en cause, pourrait-on dire, le caractère ombrageux de la victime. Est-ce que cette irruption donc d'un membre du gouvernement vous a choqué ?
Absolument, c'est doublement scandaleux, parce qu'elle ne connaît rien sur le plan juridique et judiciaire largement, puisqu'elle parle d'assassinat, et d'autre part...
Assassinat étant un meurtre avec préméditation.
Voilà, et d'autre part, nous avons un gouvernement, un Premier ministre, un Président de la République, et un garde des Sceaux, qui sont bien gardés depuis qu'ils sont en charge d'émettre le moindre avis sur des procédures en cours. Elle se permet d'émettre un avis totalement scandaleux, une immixtion qui devrait être réprimée par des observations fortes de la part du Premier ministre et même du Président et bien sûr de la garde des Sceaux. Ça n'est pas parce qu'on s'occupe des droits des hommes et des femmes qu'on peut dire n'importe quoi.
Alors c'est aujourd'hui que doit commencer la concertation avec tous les protagonistes du dossier de la réforme de la justice. Les pistes de réflexion avaient été remises à la ministre il y a 2 semaines. Parmi les sujets qui seront discutés, la prison, la peine de prison. Est-ce que la détention, puisque c'est ce que semblent indiquer ceux qui ont réfléchi à la réforme, est-ce que la détention est aujourd'hui une sorte de sanction réflexe chez les magistrats ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors évidemment... il y a de la surpopulation par rapport à l'univers pénitentiaire existant, mais les magistrats ne mettent pas en prison par sadisme, et on pourrait tout à fait concevoir, et le président l'a proposé, qu'on construise davantage de places de prison. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui se trouvent en prison à l'heure actuelle doivent y être. Je ne méconnais pas le danger des petites peines. J'ai conscience du fait que certaines pathologies psychologiques, psychiatriques ne devraient pas se trouver en prison. Mais il faut arrêter de considérer que la prison est responsable de tout. Oui. Il y a une responsabilité, il y a une liberté qui font que le délinquant commet le délit et que le criminel commet le crime. Pardon pour ces banalités, mais dans un monde où on préfère la sociologie à la responsabilité personnelle, il est utile de les rappeler.
La prison, on peut dire qu'elle a 2 fonctions. Punir le condamné en le privant de sa liberté et d'autre part, protéger la société, protéger les citoyens d'une personne qui peut représenter un danger. Quand la personne qui est en prison ne représente pas de danger pour les citoyens. Est-ce qu'on ne peut pas recourir plus fréquemment à d'autres formes de peine que l'emprisonnement ?
Vous avez raison, Frédéric Rivière, mais encore faudrait-il être assuré du fait que la personne ne représente aucun danger. C'est pas si facile que cela. Mais je vous rejoins, il y a probablement une catégorie de délinquants, notamment ceux qui s'en sont pris au bien, non pas... J'approuve ce type de transgression qui pourrait être, en effet, laissé à l'extérieur, et plus, tandis que tout ce qui est atteinte à l'intégrité corporelle, à mon avis, exigerait une sévérité toute particulière.
Il sera également question des remises de peine, dont on parle beaucoup depuis tant d'années. Est-ce qu'il faut tout remettre à plat en la matière ?
Oui, il faut surtout exécuter les peines. C'est-à-dire que nous avons un système, un univers pénal qui a perdu toute crédibilité dans la mesure où, à l'heure actuelle, je crois qu'on est de l'ordre de 80 000 à 90 000 peines qui ne sont pas exécutées. Autrement dit, il y a un fiasco, une décrédibilité d'un univers, tout simplement parce que il n'est pas capable d'être efficace et de faire exécuter les peines. Si les peines étaient exécutées, il est évident que la prison peut-être apparaîtrait moins comme l'horizon indépassable. Il faut qu'il y ait une cohérence, une rigueur, et que le prévenu sache que s'il commet une infraction, s'il la renouvelle, eh bien il ira en prison si c'est nécessaire. Et pour ma part, je sais que je vais provoquer, je suis pour le retour des peines planchers, dans un autre registre qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, mais elles sont fondamentales parce qu'elles permettent de réprimer des parcours délictuels et criminels, l'entêtement, et évidemment, ces 5 à 6% de délinquants représentent une grande majorité d'infractions.
L'accélération des procédures sera aussi en question parce qu'on sait qu'elles sont souvent extrêmement longues, parfois même interminables. Quelles sont les solutions dans ce domaine ? Est-ce que c'est d'abord une question de moyens, une question d'argent ?
Les deux. Et il faut, je n'irai pas soutenir qu'il ne faut pas davantage de crédit et d'argent, mais il faut surtout une volonté à la fois politique, contrôler le travail des magistrats, leur donner des moyens, leur insuffler de l'énergie et de l'enthousiasme, et de la part des magistrats, cesser au fond de déplorer en permanence le défaut de moyens, mais se persuader et le démontrer dans la vie professionnelle qu'être magistrat, c'est un très grand métier, un honneur, et qu'il faut cesser de plaider sur les moyens qu'on n'a pas pour, au contraire, accomplir le mieux possible ce qu'attend le citoyen.
Le budget de la justice en France est relativement faible par rapport à d'autres pays européens.
Bien sûr, mais il est clair que il faut avoir plus de moyens, budget plus conséquent, mais il faut aussi accepter le fait qu'on va pas attendre un budget idéal pour répondre aux attentes du formidable service public que le magistrat incarne.
La numérisation de la justice est un chantier aussi auquel on réfléchit, afin que les justiciables puissent suivre une procédure, aujourd'hui donc par Internet ou par des applications. Ça, c'est une piste qui pourrait fluidifier un peu les procédures ?
Sûrement. Alors, je le dis en riant, heureusement que j'ai échappé à cette modernisation forcenée et que je n'ai eu à m'encombrer que de moi-même en tant qu'avocat général aux assises. Mais il est évident que ça peut aider, à la réserve que je ne voudrais pas qu'on perde l'habitude d'une justice des visages, tout de même. Et que Internet, la modernisation, la numérisation ne nous fassent pas perdre de vue ce qu'il y a d'humain et de fondamental dans la justice.
Merci Philippe Bilger. Bonne journée.